Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'Écho Local, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Couleur FM. Aujourd'hui, jeudi 27 octobre, pendant que vous êtes sûrement au chaud dans votre voiture ou en train de préparer à manger, l'hiver annonce sa venue, le froid arrive. Bref, nous à Couleur FM, on est au chaud et on a décidé de vous concocter un menu radiophonique consistant.
Une heure d'information, d'agenda, d'actu, de vie associative et culturelle, de musique, de chroniques et d'invités.
Aujourd'hui, en direct de la radio et comme chaque jeudi à midi, vous allez savoir ce qu'il se passe au cœur de votre territoire berjalien.
Et au menu du jour, couleurs et voyages, en portrait, les demoiselles en 4L reviennent sur leur préparation du 4L Trophy au Maroc.
Ensuite, on reçoit en interview Loulou Dedola, musicien, auteur et scénariste, artiste multifacette. Après le Nigeria pour la musique et en BD et en reportage sur le grand banditisme, il nous présente sa nouvelle bande dessinée, Jeux d'ombre. Un thriller palpitant se déroulant entre notre région et la Turquie, sorti aux éditions Glénat.
Sans oublier la chronique cinéma de Véronique Boulieu et nos petits reporters de l'école Claude Chary qui sont allés eux aussi rencontrer un dessinateur-illustrateur. Et pour le dessert, on s'envolera au Brésil avec le retour de la diva de Rio de Janeiro, Flavia Coelho.
D'ailleurs, on commence cette émission par un voyage. Estelle, vous êtes allée à la rencontre d'Audrey, une jeune berjalienne qui va participer au 4L Trophy. Mais qu'est-ce que c'est le 4L Trophy ?
Alors le 4L Trophy, c'est un raid automobile destiné aux étudiants créé par Jean-Jacques Rey. Il aura lieu du 16 au 26 février prochain et l'année 2017 va marquer les 20 ans de cette édition et à cette occasion, on compte déjà plus de 2000 participants et parmi ces participants, on retrouve Audrey Gallois, une jeune iséroise qui a décidé de se lancer dans cette aventure en compagnie de son amie Océane Gros.
Depuis quelques années, j'avais pris l'envie de faire un rallye un peu à but humanitaire. Et vu que j'ai été élevée dans la 4L de mes grands-parents, du coup, le 4L Trophy s'est imposé assez rapidement. Et donc, j'ai réussi à convaincre une copine de partir avec moi. Nous partons toutes les deux en février pour le 4L Trophy.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce parcours ? Comment ça va se passer ?
En fait, le 16 février, on part de Biarritz. Donc, nous, on va y aller quelques jours avant pour les vérifications techniques et administratives, donc de la voiture et puis de nous avec Océane. Et ensuite, donc, on part de Biarritz, on traverse l'Espagne, on prend le bateau à Algeciras. Ensuite, on traverse jusqu'à Tanger. Et après, on fait une boucle on passe dans le Moyen Atlas, le désert, et on termine la course le 26 février à Marrakech. Et donc après, il faut remonter, mais la course termine à Marrakech le 26 février.
Il y aura plusieurs étapes jour par jour, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un raid humanitaire, donc le but, c'est vraiment d'amener des fournitures scolaires aux enfants. Mais par contre, il y a quand même une partie course, et donc du coup, c'est plutôt de l'orientation, dans le sens où on a un point de départ et un point d'arrivée chaque jour, et le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible pour passer de l'un à l'autre, en fait. Et donc, on se rejoint tous les équipages pour dormir au même endroit tous les soirs.
L'année dernière, il y a quand même eu plus de 2264 participants.
Cette année, je pense qu'on va être encore plus nombreux, parce que vu que c'est la 20e, normalement, il faut être étudiant et on peut pas avoir plus de 28 ans, sauf dérogation un peu exceptionnelle. Et cette année, vu que c'est la 20e, ils ont décidé d'offrir la possibilité à tous ceux qui sont déjà partis avant, donc les 20 dernières années, de revenir. Donc, ce qui fait qu'il y a des équipages qui peuvent avoir jusqu'à 48 ans, en fait. Et du coup, pour le moment, il y a à peu près 2000 voitures d'inscrites, donc pour le moment, 4000 participants. Alors, on n'est pas sûr que tout le monde arrive à partir avec le projet financier qui va derrière, mais pour le moment, on est à peu près 2100 inscrits, 2100 voitures.
Quand même, l'une des superstars, c'est évidemment la 4L. Est-ce que vous avez une 4L ? Comment ça se passe, votre financement pour ce projet ?
Alors du coup, moi, j'avais une 4L avant, donc celle de mon grand-père, hein, que j'ai récupérée il y a quelques temps, donc qu'il avait toute retapée et du coup, je voulais pas partir avec elle parce que je voulais pas l'abîmer. Donc on en a racheté une et qu'on est en train de remettre à quasi neuf. Donc on a dû changer le châssis, on a refait tout le moteur à neuf, etc. Et donc pour ça, pour pouvoir financer cette partie-là et puis la partie prix de l'inscription, on a créé une association et on a fait des manifestations et des marchés des sponsors pour pouvoir être suivi et avoir des finances pour pouvoir refaire la voiture.
Le samedi 19 novembre, justement, à 20h30, à la salle des fêtes de Sucieux, il y aura une pièce qui sera jouée, donc intitulée Le Porte-Bonheur. Les fonds seront reversés à votre association pour participer au financement, justement, de ce projet.
La troupe de théâtre qui va jouer pour nous nous a proposé de nous offrir la représentation, en fait. Donc, eux, ils viennent jouer bénévolement pour nous et nous, on récupère tous les bénéfices pour le projet, justement.
On va parler un peu argent. Justement, ça représente un coût de combien ?
Alors en fait, c'est à peu près, donc la partie inscription à l'organisation, c'est environ 3 000 euros avec donc dedans vous avez vraiment tout du départ, le bateau, le campement tous les soirs, le repas le matin et le soir, l'assurance, le rapatriement en cas de souci. Donc ça c'est tout pris dans les 3 000 euros de l'inscription. Et après, nous, on a estimé à 10-11 000 euros notre budget pour partir, sachant qu'on va, il faut refaire la 4L à 9. Donc déjà c'est un budget assez conséquent quand même. Et puis après, il y a tout ce qui va autour, parce que donc on va amener des fournitures scolaires aux enfants. Donc on va faire un partenariat avec une école. Cette partie-là, ce ne sera pas ce qui nous coûtera le plus, mais on a quand même une grosse partie de matériel, donc matériel obligatoire, par exemple des feux de détresse ou des extincteurs, mais il y a aussi la partie matériel pour nous, vestimentaire, parce qu'on dort dans une tente, en fait, dans le désert, et autant la journée il fait très chaud, autant la nuit il peut faire très froid, et l'année dernière, ils ont même eu de la neige, en fait, dans le Moyen Atlas. Du coup, il faut qu'on soit un peu paré à tout ce qui est possible comme temps, et donc on voudrait du matériel qui soit léger et de qualité, donc c'est pour ça que ça fait aussi un coût assez important.
C'était Audrey Gallois au micro de Estelle Gieli. Elle nous a parlé du 4L Trophy qui se déroulera au Maroc. On fait maintenant un crochet par le Niger avec notre première pause musicale. Bombino, groupe Touareg mêlant le son traditionnel du désert au rock'n'roll. Une musique dansante et hypnotique. Ils seront en concert le samedi 5 novembre à la Smack Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Bombino avec Timtar. We'll be right back.
groupe Bambino avec Tim Tar, extrait de leur nouvel album Hazel. Ils seront en concert le samedi 5 novembre à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. L'émission de cette semaine nous fait voyager afin d'oublier le froid qui arrive. Le reportage de cette semaine est consacré à un artiste multifacette et globe-trotteur. C'est bien ça, Mathieu ?
Effectivement, Loulou Dedola est venu à ma rencontre. C'est un homme au charisme important avec une vie incroyable. D'abord musicien, il a, comme je l'ai dit au début de notre émission, travaillé avec Fela Kuti, l'inventeur de l'afrobeat. Ce musicien nigérian est considéré comme l'une des personnalités africaines les plus influentes du XXe siècle. Il a également travaillé sur la mafia nigériane et le trafic de prostitution avec Lyon. Un reportage pour Canal+ en est sorti, ainsi que sa première bande dessinée en tant qu'auteur, 419, qui a été d'ailleurs adaptée en film avec Richard Bohringer. Aujourd'hui, Loulou Dedola est avec nous pour nous parler de Jeux d'ombre, un thriller palpitant qui se déroule entre Saint-Fond et Izmir. L'histoire de Chingiz, un jeune de banlieue, étudiant brillant, imprégné des idées de Mustapha Kemal. Il sera confronté à de multiples péripéties. On laisse la parole à Loulou, l'auteur de cet ouvrage. Bonjour Loulou Dedola.
Salut Mathieu.
Merci de venir à notre rencontre pour nous parler un peu de vous et surtout de votre nouvelle bande dessinée Jeux d'ombre.
Avec plaisir, avec plaisir.
Vous êtes un homme, si je peux me permettre, multifacette. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait beaucoup de choses, de la musique, des scénarios, des livres. Peut-on revenir sur votre parcours ? On va partir d'Abidjan et Lagos pour finir à Izmir, d'où la BD Jeux d'ombre.
Au départ, moi, je suis musicien. J'ai commencé très jeune à faire de la musique, du reggae. Je faisais du reggae à Lyon avec un groupe qui s'appelle RCP, qui s'appelle toujours RCP. Donc on a beaucoup tourné, hein, et certainement des gens, les Lyonnais nous connaissent. Et puis après, je suis parti en Afrique parce que j'ai signé un contrat avec Alpha Blondie Distribution et Jat Music. Donc j'ai sorti deux albums en Côte d'Ivoire. Donc j'ai joué du reggae en Côte d'Ivoire. Puis j'ai rencontré Heidi, Fela, toute la mouvance nigériane au Nigeria où j'étais en 94. Et j'ai commencé à faire une musique un peu plus moderne, hein, sans offenser les gens qui font du reggae. Alors je me suis inspiré de l'afrobeat et j'ai fait donc un long séjour à Lagos, où donc j'ai joué, hein, j'ai côtoyé la famille de Fela Kuti, j'ai joué au Shrine, au New Africa Shrine de Lagos, etc. Et dans plein d'endroits au nord du Nigeria, etc. Et puis j'ai donc au terme de cette expérience, j'ai écrit un roman qui s'appelle 419 African Mafia, où je parle de la mafia africaine, parce que de retour d'Afrique, je suis arrivé à Lyon et j'ai découvert la présence de la mafia africaine avec la prostitution, le trafic de drogue, etc. Et donc ça m'a inspiré un roman parce que je connaissais les deux côtés, je connaissais les racines du mal entre guillemets. Et puis c'est devenu un film là qui devrait sortir très bientôt avec Richard Bohringer comme acteur principal. C'est devenu une bande dessinée. Puis après je suis parti dans d'autres univers parce que je suis un républicain. Je me suis intéressé à Mustapha Kemal et à la Turquie. Et j'ai voyagé encore une fois. Je suis allé partout en Turquie, Istanbul, Ankara, Izmir, Yozgat. Et j'ai donc écrit cette bande dessinée. Donc voilà, c'est un parcours qui, par la musique, m'a amené à la bande dessinée. Et par la bande dessinée, je suis retourné, j'ai terminé dans le cinéma. Là, je reviens dans la bande dessinée avec Jeux d'ombre. Voilà.
Comment est né ce projet de bande dessinée Jeux d'ombre ? Et comment avez-vous rencontré Merwan, le dessinateur ?
En réalité, tout ça, on le doit à un patron de journal et un magazine, je crois que c'est un bimestriel qui s'appelle Geek. Et le patron s'appelle, le rédacteur en chef et le patron du journal s'appelle Nicolas Forsan. Il me connaissait pour la bande dessinée 419 African Mafia, cette bande dessinée qui parle donc du Nigeria. Et il m'avait demandé si j'avais d'autres idées, d'autres projets en BD. Et je lui ai dit que j'avais un projet concernant un jeune turc qui serait impliqué, qui serait pris en étau entre des islamistes et des trafiquants. Un thriller à la française, en banlieue, etc. Il a tout de suite pensé à Merwan Chaban, qu'on connaît comme étant le storyboarder des Lascar sur Canal+, et l'un des auteurs de L'or et le sang, là, le grand succès librairie, que vous connaissez tous. Et je l'ai rencontré, et on s'est dit qu'on pouvait faire le travail ensemble. Je lui ai dit qu'on était en mission pour le Seigneur, même si nous sommes profondément athées, lui et moi, mais c'était pour dire qu'en fait, on avait cette mission-là à l'égard de plein de petits gamins en banlieue qui avaient besoin d'avoir des repères, et puis qu'on voulait aussi révéler une certaine réalité au lectorat de la BD.
On va donc plonger au cœur de cette bande dessinée avec un avant-goût de l'histoire de Jeux d'ombre.
Alors, il était une fois Chingiz, qui est un jeune turc, laïque, républicain, qui mène des études avec succès. Il est étudiant en droit et un jour, il désamorce une émeute en banlieue. Et en désamorçant cette émeute, c'est-à-dire en s'interposant entre la police et les jeunes pour que les choses ne dégénèrent pas, il devient l'interlocuteur privilégié des politiciens. Il convoite une jeune fille qui s'appelle Viviane, qui est militante du Parti Socialiste. Et cette jeune fille, elle lui propose de monter une association et de se lancer encore plus dans une carrière politique quasiment. Et lui, il accepte plus pour pouvoir courtiser Viviane que véritablement par vocation. Tout ça marche très très bien, il organise des soirées, des débats, ça fonctionne très bien, les politiques le suivent, la police le respecte énormément, les jeunes aussi, c'est un leader charismatique, sauf qu'il a un frère qui est en prison en Turquie pour trafic de drogue, un caïd ultra-violent et qui finit par s'évader. En réalité, il bénéficie de l'évasion d'un gros détenu et il se retrouve en liberté et revient, comme tous ces types de personnes qui ne sont forts que dans leur quartier, il revient dans son quartier pour régler ses comptes. Et tout ça va faire voler en éclats le travail que Chingiz menait depuis plus presque un an avec Viviane, son association, son rôle d'interlocuteur des politiciens, etc.
Pour créer du lien, etc.
Oui, il avait pour objectif de faire barrage à la montée de l'islamisme, à la montée des trafiquants, etc. Mais en fait, dans la manière d'écrire, ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu en toute modestie, mais c'est sur le principe de ce que fait Sergio Leone, c'est-à-dire qu'en fait, il était une fois Chingiz, le gentil, le méchant, c'est son frère, Sayar, qui s'échappe de prison. Entre les deux, il y a Viviane, une femme pour laquelle Chingiz est prêt à s'engager dans la politique, et tout ça va voler en éclats. Et derrière, il y a la condition des jeunes en banlieue, les manipulations politiques, voilà, un petit peu comme il était une fois la Révolution, puisqu'on parlait de Sergio Leone.
L'histoire des banlieues à travers Jeux d'ombre est très proche de la réalité. Jeux d'ombre tire un portrait très réel. Vous qui avez grandi aux Minguettes, quel constat faites-vous des banlieues? Je suppose que l'on retrouve un peu de votre parcours dans Jeux d'ombre.
Ouais, bien sûr, je parle de choses que je connais très bien, évidemment, mais mon constat, c'est celui que les lecteurs découvriront dans Jeux d'ombre. Mon constat, c'est que, après, je ne veux pas parler de Jeux d'ombre en focusant sur la banlieue, hein. C'est avant tout une œuvre, c'est avant tout de l'entertainment, hein. C'est avant tout une histoire avec des rebondissements, des héros sympas, etc. Mais pour parler de la banlieue, si on devait dire quelque chose d'intéressant sur la banlieue à partir de Jeux d'ombre, je dirais que beaucoup d'artistes qu'on connaît, hein, ont sorti de la sphère privée pour mettre cette question centrale dans tous les débats. Ils ont sorti la religion de la sphère privée et l'ont mise centrale dans les malaises de la banlieue en disant « faut reconnaître notre identité », etc. C'est ce qu'ont fait des gens comme Abdel Malik, Youssoupha, Akhenaton, qui ont du talent, hein, c'est des gens respectables. Mais je partage pas leur avis. Je pense que en banlieue, le problème, il n'est pas de reconnaissance d'identité, de reconnaissance de diversité, de vivre ensemble. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles on va se perdre. Parce que ça validera un système communautaire à l'américaine dont on sait que finalement, il finit par l'affrontement, même avec un président noir. On en a l'exemple encore récemment. Chingiz, mon héros, lui, il a une autre vision. Il a une vision républicaine. À l'image de son mentor, qui est Mustafa Kemal, le père fondateur de la Turquie moderne. Et lui, il ne veut pas de communautarisme, il ne veut pas de vivre ensemble, il sait qu'on vit déjà ensemble. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'activité économique, il veut de la culture, il veut que les choses bougent dans ce sens, et il veut laisser la religion dans la sphère privée. Pendant des années, la doxa, ça a été de donner de la religion aux quartiers pour les calmer, et de reconnaître des artistes qui affichaient leur religion, comme aux États-Unis à une époque, hein. Aujourd'hui, avec Chingiz, on donne un visage à des gens qui ont un autre projet pour nos quartiers, pour notre pays. C'est-à-dire qu'on vit déjà ensemble, ce qu'on veut, c'est mieux vivre. C'est pas vivre différemment, accepter nos différences. Nos différences, elles nous concernent, elles sont personnelles. Voilà, c'est comme ça que Chingiz, c'est un héros très attachant. Aujourd'hui, ce type de personnes ont un visage, c'est celui de Chingiz. Il incarne cette volonté.
En quelque sorte, Chingiz incarne cette vision et même cette mission que vous défendez, sortir la banlieue de ses carcans et éduquer davantage les jeunes.
Ouais, Chingiz, il l'incarne, comme je dis, on est en mission pour le Seigneur, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai convaincu, j'ai repris, j'ai paraphrasé la réplique des frères, des Blues Brothers, dans le premier, d'ailleurs le vrai Blues Brothers, le premier qui est génial, j'adore ce film, où les deux frères vont convaincre les musiciens en leur disant on est en mission pour le Seigneur, alors qu'ils sont d'infâmes malfrats. Mais bon, ils ont pour but de trouver des financements pour sauver un orphelinat. Et là, j'ai un peu dit la même chose à Merwan, même si nous ne sommes pas des malfrats. Je lui dis, Merwan, c'est vrai qu'on est des athées, qu'on croit pas en Dieu, pour être clair. Mais il y a plein de gens, de jeunes, qui sont dans la confusion. Il faut que les gens comme nous, qui venons des quartiers populaires, qui sommes issus de l'immigration, etc., même si on n'en fait pas notre carte de visite, faut qu'on montre un visage aussi, un autre visage. Et ce visage-là, c'est Chingiz. Chingiz est en mission.
Pourquoi la Turquie ? Est-ce que Chingiz existe vraiment ? Ou on retrouve en Chingiz des parties de votre histoire ?
Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien que je n'invente, il n'y a rien que je n'ai vécu ou que je n'ai vu vivre par d'autres personnes dans cette BD, sauf l'intrigue en elle-même. Mais sinon, on n'invente rien, les auteurs. On s'inspire de la réalité. Non, je pense que la Turquie, ça s'imposait dans la mesure où il fallait que ça rende crédible l'existence de Chingiz. Et Chingiz, par son appartenance à la mouvance kémaliste, cette filiation avec l'idéologie kémaliste, qui est de se rattacher au siècle des Lumières, qui est d'être humaniste, de se référer, on va pas faire trop intello, mais aux présocratiques, c'est-à-dire les philosophes qui expliquaient le monde sans avoir recours à l'existence de Dieu. L'antithèse de ce qu'a fait Socrate avec le mythe de la caverne, et on sait où ça a mené Jésus-Christ, Mohamed, etc. J'ai rien contre, mais c'est deux choses totalement différentes. Donc Kemal, lui, c'est la science et la raison qui gouvernent et qui doivent gouverner. Voilà. Et puis c'est un laïc, il est pour le droit des femmes, le droit de vote des femmes 14 ans avant la France. Voilà, c'est monumental, les droits des femmes en Turquie sous Kemal. Là. Voilà. Et ça, ça rend crédible l'existence d'un Chingiz militant laïque en banlieue. Donc voilà pourquoi j'ai choisi qu'il soit turc.
Et pourquoi vous faire apparaître vous-même dans cette bande dessinée ?
Alors en fait, c'était pareil. Chingiz tout seul, à 21-22 ans, arrivé dans un quartier comme les Clochettes, puisque ça se situe aux Clochettes à Saint-Fond, ça me paraissait pas crédible. Il aurait été balayé. Mais en le mettant, en faisant apparaître dans son quotidien, dans la bande dessinée, quelqu'un qui aurait déjà ouvert la voie avec une vision un peu semblable, et ben là, ça me permettait de rendre crédible encore une fois l'intrigue. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai qu'il fallait quelqu'un qui ait ouvert la route à Chingiz. Et j'ai dit, et ça c'était pour faire rire l'auteur, enfin le dessinateur, j'ai dit, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme moi. Il m'a dit, ben mets-toi. Et j'ai dit, ouais, mais tu crois ? Il dit, ouais, on va... Et puis en fait, aussi parce que c'est pour le fun, j'aime bien faire ça.
On va rester sur cette note de fun, en parlant de vous d'ailleurs. Avant de parler en détail de Jeux d'ombre, votre deuxième bande dessinée et de sa mise en place, j'aimerais qu'on écoute une musique ensemble, pourquoi pas une musique de votre propre groupe RCP.
Eh ben, si on écoute du RCP, on va écouter Ni Ange Ni Maudit.
Ni brun, ni blond, ni pour vermine, ni diable, ni marine, ni père, ni fils, mais Saint-Esprit, amen, oh Lord. Cessez vos discours sur la patrie, gardez vos clés du paradis, vos mécréants, vos ennemis. Moi je marche à l'envi. Je ne suis ni ange, ni maudit, ni ange, ni maudit. Faux prophète, faux patriote, Adonino, faux prophète,
copes ni vin. Même plus rouge que blanc, ni maître, ni esclave, ni nord, ni sud, ni Berlin, ni Lévis. Nicotine, ni coquin, ça dépend qui vient, qui me tend la main, du temps qu'il fera le main. Pas des chiens qui aboient, ou des faiseurs de rois. Vivre libre, ma foi. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote.
Ni ange, ni moulin, ni nord, ni sud, ni maître, ni esclave, ni ghetto, ni gotha. Ni opium, ni oplats, ni père, ni fils, mais saint d'esprit. No need for.
Attends, Nino, faux prophète, faux patriote. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote. Attends, Nino. Attends, Nino, faux prophète, faux patriote.
Jouer le prophète pour le profit, la patrie pour le parti. Oui, le prophète pour les profits, la patrie pour le parti. Tu vois trop de faux prophètes, j'entends trop de faux patriotes. Tu vois trop de faux prophètes, j'entends trop de faux patriotes. Jouer le prophète pour le profit, la patrie pour le parti. Oui, le prophète pour les profits, la patrie pour le parti. Tu vois trop de faux prophètes.
Ni ange ni maudit de RCP, groupe de notre invité en interview dans l'écho local, Loulou Dedola. Ce musicien scénariste auteur nous parle de sa bande dessinée Jeux d'ombre. D'ailleurs, Ni ange ni maudit que l'on vient d'écouter est le titre du second tome qui sortira en janvier à l'occasion du festival d'Angoulême. Loulou, vous êtes avec nous encore quelques minutes pour nous parler plus en détail de Jeux d'ombre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jeux d'ombre, c'est l'histoire de Chingiz, jeune turc vivant à Saint-Fons, étudiant brillant, kémaliste, laïque, qui se retrouve dans divers péripéties. C'est une bande dessinée dressant un portrait réaliste des quartiers où criminalité, engagement social et activisme politique sont indissociables. Loulou Dedola, on vous voit apparaître à plusieurs reprises dans cet ouvrage. Cela montre que vous voulez révéler des parties de votre histoire et également faire passer des messages. Et aussi, les valeurs que Chingiz représente sont aussi les vôtres. Dans la BD, on a l'impression qu'il fait un peu partie de votre famille. Vous êtes avec votre gamin Radio Pluriel, il arrive, vous l'aidez pour diverses choses. C'est un peu comme transmettre ses valeurs à un fils.
Mais c'est exactement ça.
Le lecteur, moi, j'ai l'impression d'être Chingiz, car on suit le héros. Et parallèlement, vous, vous transmettez vos valeurs à Chingiz, c'est intéressant.
Et à travers la BD en même temps. Voilà, c'est le jeu est là. Hein. Le jeu est là de dire, voilà, on va vous faire découvrir... Comment fonctionnent les gens de la mouvance kémaliste, ce qu'est l'humanisme, le siècle des Lumières, cette philosophie, cette convivialité qui se dégage de cette communauté-là. Voilà, c'est ce que j'ai voulu, et montrer qu'il y a un contre-champ à une radicalisation des banlieues et même à un islam modéré. C'est-à-dire qu'il est dans des comportements et des manières d'agir qui sont plus trop tolérées en banlieue. Mais... il faut resituer ça aussi, après on va certainement parler dans le cadre d'une grande manipulation politique qui a lieu sur ces questions-là.
Tout comme la musique, la BD c'est aussi un objet culturel qui peut véhiculer des valeurs, des idées et des messages. On parle souvent d'ailleurs du dessin tape qui permet de focaliser l'œil sur certaines choses. C'est un peu ça, Jeux d'ombre, non ?
Ouais, nous c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire une histoire, une sorte de western dans la ville de Lyon, western moderne pour paraphraser M.C. Solar. Et en même temps, on a voulu, à la manière de Sergio Leone encore, qu'il y ait des choses derrière un contexte. Voilà, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, où il dénonce la guerre de sécession, l'utilisation des premiers explosifs. Et bien là, nous, on a voulu dire, tiens, voilà, ce type, il est là, il est en banlieue, il est amoureux de cette fille, il décide de monter une association parce qu'il a du charisme, etc. C'est un humaniste, il fait partie de la mouvance kémaliste parce qu'il est d'origine turque et laïque. Mais voilà, son frère qui revient... et qui va tout foutre en l'air. Ça sera dans le deuxième tome surtout.
L'idéologie kémaliste de Atatürk est très présente dans cette BD. Comment avez-vous rencontré ce courant de pensée ?
Ben, en fait, comment dire ? Ça me rappelle la réponse qu'avait fait Bob Marley, un journaliste qui lui avait dit « Comment vous êtes devenu Rasta ?» Il dit j'ai toujours été rasta, c'est comme une plante. En fait, à partir du moment, bon moi, on va pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais ma mère est grecque, donc j'ai été éduqué à la philosophie grecque, donc notamment les présocratiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Hein. Ça fait très intello. Hein. La BD n'est pas quelque chose de compliqué. Hein. C'est vraiment une œuvre de divertissement, mais puisqu'on rentre dans le fond hein, sur le kémalisme. Donc voilà. Et puis on découvre des choses avec cette philosophie. On découvre Voltaire, Voltaire qui était le mentor de Mustapha Kemal. Et voilà, donc toutes ces choses quoi. Et puis Kemal, à un moment donné, il arrive dans l'histoire. C'est vrai que Kemal au XXe siècle, pour parler de Kemal, il est passé. On est passé à côté du kémalisme. Les gens, une partie du peuple s'est mis dans la roue des populismes et même du fascisme avec Hitler, Mussolini, etc. Une autre partie était derrière Staline. Kemal, et on le verra dans ma prochaine BD, puisque je vais sortir une BD sur la vie de Mustapha Kemal, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. On verra que Kemal était le premier à alerter les gens sur ces deux idéologies qui menaient peut-être à la même chose.
Vous parliez du rapport avec l'actualité, ce qui se passe en Turquie actuellement avec ce retour du mouvement Réa qui est conservateur. L'idéologie kémaliste, on voit qu'elle passe par l'ongle de Tchingiz quand il l'accueille chez lui et dénonce les extrémistes.
Oui, bien sûr.
Et en même temps, par rapport aux émeutes de banlieue, on trouve aussi une actualité. Car la sortie de votre bande dessinée coïncide presque avec la fusillade qui a eu lieu à Saint-Fons. Et en même temps, coïncide avec les événements qui ont eu lieu en Turquie. Quel recul avez-vous par rapport à ces événements, en lien avec la sortie de Jeux d'ombre, qui est presque visionnaire et anticipatrice?
Bon, moi, je suis pas un polémiste. Je suis pas un journaliste, un analyste. Je suis d'abord un auteur qui raconte des histoires pour divertir les gens. Vous prenez la BD, vous lisez Jeux d'ombre, vous vous attachez à Tchingiz, vous attachez à Viviane, vous craignez Sayar, etc. Mais ce qui ressort, c'est vrai, c'est que il faut 2 ans pour faire une BD. Hein. C'est-à-dire, vous l'écrivez, le dessinateur, vous écrivez la BD, vous faites le découpage, les dialogues, ensuite vous l'envoyez au dessinateur. Voilà, et c'est détaillé à la fin de la BD, ouais, y a un making-of intéressant. Et à un moment donné, il se trouve que ça coïncide, la sortie de la BD, avec ce qui s'est passé notamment à Saint-Fons là, à la fin du mois d'août et qui a été révélé mercredi, le jour de la sortie de la BD d'ailleurs, où des gens se sont face à un jeune Marseillais s'est fait descendre en pleine rue dans une course-poursuite avec des voitures, exactement comme dans Jeux d'ombre. Ça a aussi mis un coup de projecteur particulier sur Jeux d'ombre avec la communauté turque, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement que la Turquie est centrale dans les enjeux géopolitiques actuels et qu'il y a en Turquie effectivement un affrontement entre la mouvance islamiste et la mouvance kémaliste, sachant que le dernier affrontement et le coup d'état, c'est entre islamistes. Fethullah Gülen est le proche de Erdogan au départ, et Erdogan lui a confié les militaires, l'armée, et où il a placé tous ses proches pour chasser justement les kémalistes de l'armée et pour défendre la République. Pour ceux qui connaissent bien la Turquie, Erdogan n'a trouvé de protection qu'auprès des kémalistes, parce que sinon Fethullah Gülen réussissait son coup. Et aujourd'hui, les kémalistes ont prouvé leur fidélité à la République. Erdogan a été élu. Nous, les kémalistes, nous sommes contre les coups d'État.
Pour revenir à la bande dessinée Jeux d'ombre, ce que je trouve intéressant, c'est que vous imbriquez toutes vos facettes de votre vie à l'intérieur de cet ouvrage. Par exemple, la plaque d'immatriculation qui porte vos initiales et le nom de votre groupe, RCP. D'ailleurs, RCP qui est écouté dans la voiture par Tchingiz. Il y a également aussi des lieux qui sont communs dans votre vie. Le parc des clochettes, Radio Pluriel. Et également la course poursuite en moto. Je sais que vous êtes motard. C'est peut-être une expérience que vous avez vécue ou vue.
Moi, on va parler de moi. Hein. Moi, j'aime la musique. J'aime écrire. J'aime créer des choses, raconter des histoires. Je me considère comme un auteur et je mélange un peu tout ça. Après, mes expériences personnelles, mes passions, elles sont véhiculées aussi par mes œuvres, quoi. Et en l'occurrence, Jeux d'ombre. Bon, c'est vrai que j'ai un lien particulier avec Jeux d'ombre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma carrière aujourd'hui. Un gros succès critique. On est invité partout. J'ai pas une minute à moi. Je dois aller dans je ne sais combien d'endroits de festivals et de librairies. On est invité en Turquie, etc. Donc, c'est super. J'y mets mes passions, donc voilà, je fais des clins d'œil aussi à des, aux gens qui me suivent en dehors de la BD. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me connaissent en tant que musicien, leader du groupe RCP. Quand ils voient la voiture de Chinggis dont la plaque d'immatriculation est 419LD, Loulou Dedola 419, c'est le titre de mon ancien album, précédent album, etc. Il y a des choses qui vont se passer. C'est ce qu'on a, on a, j'ai fait une chanson d'ailleurs qui s'appelle Ni ange ni maudit, du titre du second tome de Jeux d'ombre qui sortira en janvier. Je vais faire un album qui s'intitulera Jeux d'ombre, un album musical.
Et pourquoi le titre Jeux d'ombre ?
Bah parce que je trouve que la manière dont on a de traiter les problèmes en banlieue, les problèmes sociaux, la jeunesse, etc., il y a quand même derrière de sacrées manipulations. Voilà, et c'est ce qu'on montre dans la bande dessinée, il y a quand même de sacrées manipulations. Il y a quand même, vraiment, c'est très sombre. Tout n'est pas si clair, c'est très très compliqué à se retrouver dans ce panier de crabes. Mais dans la BD, finalement, Chinggis, il nous donne des clés, et surtout, il nous fait vivre une aventure. Je crois que ce qui est à retenir dans cette bande dessinée, quand on est dans tous ces univers, c'est qu'on la lit, c'est fluide. Et on rentre dans une histoire, et derrière cette histoire, on comprend des choses.
Et quels sont les retours que vous avez eus depuis la sortie de Jeux d'ombre ?
On a un super succès critique. On est sur un terrain où personne n'est encore allé dans la BD. Les gens de la BD sont des gens très ouverts. Alors, ils ont l'habitude, parce que c'est quand même de tradition que la BD elle réfléchisse sur des problèmes de société. Même si je partage, et de loin, pas tous les points de vue de Hergé, il se posait des questions quand même, Hergé, sur la colonisation, sur la science, etc. Il en est de même, même si c'était une parodie pour Lucky Luke, avec le mythe américain, le rêve américain, etc. Avec Jeux d'ombre, on est un peu dans cette logique de mettre un héros avec une histoire un peu palpitante, avec son frère, la jeune fille, etc. On en a déjà parlé, dans ce contexte-là. Donc, voilà, nous on est légitimement, on est dans la tradition de la BD, donc on a reçu un accueil très sympa, des critiques, des festivals, des librairies. Et en même temps, on a reçu cet accueil parce que on est sorti des sentiers battus au niveau de la thématique.
Et c'est pertinent que Jeux d'ombre se situe dans un univers qui existe, Lyon, les Minguettes, le parc des Clochettes.
Ouais, bien sûr. Pour les gens qui connaissent bien Lyon, pour les gens de la banlieue, j'ai voulu faire un petit peu comme on fait aux États-Unis. J'adore comment travaillent les artistes américains comme Scorchez, etc. De mettre les quartiers, leurs quartiers, Brooklyn, le Bronx, etc., au centre d'intrigue. Et j'ai voulu faire ça. Mais pas d'une manière, encore une fois, j'ai voulu prendre le contre-pied de ce côté un peu triste, ouais, la banlieue, etc. Mais non, là, c'est super marrant, les types, ils convoient des jeunes filles. Voilà, c'est Spike Lee travaille comme ça aussi. Et moi, j'aime bien ça. Vraiment, je suis très attaché à Jeux d'ombre. Et même au-delà de Jeux d'ombre, je suis très attaché à Chinggis. Je pense qu'il faut qu'on donne de l'écho à ce que Chinggis fait dans la bande dessinée. Je pense qu'il faut qu'on incarne tous une part de Chinggis, qu'on sorte tous la part de Chinggis qui est en nous. Chinggis, pour la petite histoire, qui est un nom mongol, puisque les Turcs, au départ, sont un peuple issu du nord de la Mongolie. Et Chinggis, c'est Genghis Khan.
Merci beaucoup, Loulou Dedola, pour tous ces détails et cette rencontre.
C'est moi. Ben, je veux simplement vous dire que je vous souhaite une bonne lecture de Jeux d'ombre. Et puis, je vous souhaite plein d'autres choses aussi. En ces temps compliqués et ambigus, faisons comme le disait Mustapha Kemal, laissons-nous gouverner par notre humanisme, notre raison et la science. À bientôt à tous. Merci.
Merci beaucoup.
C'était le reportage de la semaine avec Loulou Dedola, auteur de la bande dessinée Jeux d'ombre, interviewé par Mathieu. On reste dans le monde de l'art visuel et place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Merci Estelle. Les sorties de la semaine au cinéma Le Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, partenaire de Couleur FM. Doctor Strange, un film fantastique américain de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton et Matt Mikkelsen. La fille du train, un thriller américain de Tay Taylor, une adaptation du roman du même nom de la romancière britannique Paula Hawkins, avec Emily Blunt, Ale Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Théroux et Luc Evans. Tamara, une comédie française d'Alexandra Castagnetti, avec Sylvie Testu, Ryan Bensetti et Héloïse Martin. Moi, Daniel Blake, un drame anglais de Ken Loach, avec Dave Jones et Hayley Squires. Mon coup de cœur de cette semaine ira pour le film L'Odyssée, un drame français de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Ninet et Audrey Tautou. L'histoire, nous sommes en 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils vivent au paradis dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Un film que je vous recommande pour découvrir ce personnage hors du commun qu'était Jacques-Yves Cousteau. Couleur FM, en partenariat avec le cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, vous offre vos places de cinéma. Pour cela, c'est tout simple, vous téléphonez au 04 74 27 80 80 et vous laissez vos coordonnées. On retrouve tout de suite Estelle et Mathieu pour la suite de l'émission L'Écho Local.
Merci Véronique. Dans L'Écho Local, nous avons des petits reporters avec qui nous intervenons pour les former au métier de la radio dans le cadre des TAP, les temps d'activité périscolaire. Le groupe des élèves de l'école Claude Chary a interviewé Emmanuel Prost, illustrateur lyonnais et membre du collectif visuel et sonore Midnight Rivers.
Tout de suite, nous allons écouter l'interview...
Bonjour à tous.
Comment il s'appelle ?
Il s'appelle Emmanuel Prost,
dessinateur.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour les filles, ça va ?
Ça va.
Alors, qu'est-ce que vous dessinez le plus souvent ?
J'aime bien dessiner ce que je vois devant moi, donc c'est-à-dire les gens ou les paysages ou voilà.
D'accord. Est-ce que vous dessinez pour votre loisir ?
Je dessine aussi pour mon loisir, mais aussi pour mon métier.
D'accord. Est-ce que vous êtes parti dans d'autres pays pour dessiner ?
Je suis parti dans d'autres pays pour dessiner, oui. Je suis allé, par exemple, au Mexique ou au Mali, à Bamako.
D'accord.
Quel matériel utilisez-vous pour dessiner ?
Alors, j'utilise beaucoup des crayons, des stylos, de l'aquarelle ou de la gouache ou n'importe quel matériel. J'aime bien essayer beaucoup de choses différentes.
D'accord. Combien de temps prend un grand dessin en moyenne ?
Un grand dessin peut prendre entre 2 heures et 1 semaine ou 2 semaines. Ça va dépendre de la technique employée et de la taille du dessin.
Eh ben, dis donc. Et un petit ?
Hein ?
Et un petit ?
Ben, un petit, c'est pareil. Ça peut prendre entre 5 minutes et 2 semaines si vraiment on veut faire quelque chose de très, très détaillé. Il y a des peintres à l'époque qui faisaient leur peinture en plusieurs années même.
D'accord.
Qu'est-ce que vous aimez dessiner le plus ?
Et toutes les choses qu'on a devant nous, quoi. Enfin, j'aime bien dessiner les gens. J'aime bien dessiner aussi la lumière qui tape dehors ou les objets, tout en fait. Tout ça fait du bien, ça apprend des choses.
D'accord.
Et ça permet de mieux connaître l'univers dans lequel on vit.
Ok.
Oui. Que faites-vous de vos dessins après les avoir faits ?
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, oui.
Eh bien, par exemple, on peut en faire des livres.
Oh.
Ça peut être des livres d'illustration qui racontent, comme les livres qu'on lit étant enfant, qui racontent une histoire et puis moi, j'ai mes dessins qui vont l'illustrer.
D'accord.
Ça peut être des livres de bande dessinée, raconter une histoire avec des bulles et des cases en dessin. Ça peut être un dessin qui sert de maquette pour faire une peinture sur un mur,
d'accord,
une fresque murale. Ça peut être pour faire une peinture, pour mettre chez soi. Ça peut être pour plein de choses différentes, en fait.
D'accord. Qu'est-ce qui choisit ce que vous dessinez ?
Si j'ai une commande précise d'un client, c'est le client qui va choisir.
Mm-hmm.
Par exemple, ça peut être un éditeur qui me demande une illustration pour un livre, donc c'est lui qui va me dire quoi dessiner.
Mm-hmm.
Ou autrement, si c'est pour mon plaisir, c'est moi-même qui vais choisir. Voilà.
Quel est votre instrument de dessin préféré ?
Mon instrument de dessin préféré ? Le pinceau et l'encre, on va dire.
D'accord.
Mais ça va dépendre des moments, en fait. C'est difficile de dire un seul.
Est-ce qu'il faut passer un test pour être dessinateur?
Alors, pour être dessinateur, le mieux, c'est d'avoir plein de dessins avec soi. Comme ça, on les montre. Mmh. Et les gens savent à quoi s'attendre. Autrement, il y a quelques métiers qui peuvent demander des tests. Par exemple, si tu veux travailler dans le dessin animé, mmh. où là, tu vas travailler avec des équipes dans un studio. Mmh. Dans ce cas-là, on va te faire passer un test, comme dans n'importe quel travail, pour voir tes capacités en direct.
D'accord.
Mais en général, voilà, tu peux faire des écoles et tout ça, et puis avoir des diplômes. Mais on va rarement te demander tes diplômes, mais plutôt te demander des travaux que tu as déjà faits.
D'accord.
Voilà.
À quel âge avez-vous commencé à dessiner ?
Eh ben, je pense comme vous toutes, j'ai commencé à dessiner étant petit, en gribouillant sur les papiers. Et la seule différence, c'est que j'ai jamais arrêté, puisqu'il y a beaucoup d'adultes, de jeunes qui, en grandissant, arrêtent de dessiner. Mmh. Et moi, j'ai voulu toujours continuer.
D'accord. Quels sont vos projets pour cette année 2016?
Alors, j'aimerais bien réaliser une bande dessinée, parce que ça fait longtemps que j'essaye de faire ça et j'ai pas encore fait. Et puis sinon, j'espère avoir plein de nouveaux travaux en dessin à faire.
D'accord.
Et voilà.
Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de dessinateurs? Si oui.
Ah oui, il y a plein de sortes de dessinateurs différents. Il y a par exemple les illustrateurs qui, comme moi, donc font des livres. Il y a les dessinateurs industriels qui vont travailler plus pour les ingénieurs, pour les machines. Il y a les dessinateurs d'architecture qui vont faire l'architecture. Et puis ensuite, dans le dessin même, il y a plusieurs styles de dessin. Il y a des gens qui ont un dessin réaliste. Il y en a d'autres qui ont un dessin naïf, voilà, il y a plein de styles différents, comme en peinture et comme en musique.
Quels sont vos jours et horaires de travail?
Alors, c'est en général moi qui les organise quand je travaille pour moi.
Mmh.
Et donc, je fais un peu comme je veux, mais bon, j'essaye de me coucher tôt et de me lever tôt pour pouvoir avoir des horaires un peu comme tout le monde.
D'accord.
Et ensuite, quand on travaille dans un studio, comme quand on fait du dessin animé, là, on a des horaires classiques de bureau.
Est-ce que vous avez un conseiller à nous donner pour bien dessiner?
Dessiner beaucoup. Pour bien dessiner, c'est comme pour tout, c'est comme pour jouer au foot, c'est comme pour tout. Il faut beaucoup pratiquer, le faire très souvent et regarder aussi les autres dessins pour ne pas hésiter à s'en inspirer. Et regarder la réalité, parce que la beauté, on la trouve dans la réalité. Donc c'est en regardant ce qu'il y a autour de nous et en essayant de le représenter qu'on va réussir à progresser, je pense.
Merci. Bon, cette interview est finie.
Oh non,
ben,
déjà ? Eh oui, déjà. Allez, à tout à l'heure sur Kids FM.
Au revoir, Emmanuel.
Au revoir, les filles.
Merci pour cette belle interview. On se retrouve dans quelques mois pour de nouvelles interviews et chroniques.
C'était Kids FM, une émission avec Couleur FM.
Merci.
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 C'était l'interview de Emmanuel Prost, illustrateur réalisé par les élèves de l'école Claude Chary. Vous êtes en direct de l'éco locale sur Couleur FM. Pour terminer ce menu radiophonique, Mathieu nous emmène en balade sonore autour du monde. Alors Mathieu, où va-t-on aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous emmène entre Paris et Rio de Janeiro au Brésil, en compagnie de Flavia Coelho. Guitariste et chanteuse, elle revient avec un troisième album, Sonoreal, mon vrai rêve. Cocktail savoureux de musique brésilienne ouvert sur le monde du reggae, du raga, du hip-hop et des musiques du monde.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
La guitariste-chanteuse de Rio de Janeiro, Flavia Coelho, qui avait surpris avec son Bossa Muffin, a réalisé plus de 250 concerts de partout dans le monde avec son deuxième album Mundo Mio. Elle revient désormais avec un troisième, son vrai rêve, Sonoreal. Un disque toujours aussi solaire aux accents plus reggae, raga et ska. Des sonorités vintage, aériennes et chaudes mêlées au rythme foro et bossa. Produit par son fidèle ami, manager et arrangeur et clavériste Victor Wagweiman, sans oublier le batteur Al Chonville, Flavia Coelho, dans ce disque, chante ses expériences et surtout son rêve auquel elle aspire.
Mando vira onda, inventando moda.
Comme elle le dit si bien, il ne faut pas attendre la beauté du monde. Il faut l'inventer soi-même. Sonia Réal, rêver vrai. Plus cosmique que ses précédents disques, elle nous invite en quelque sorte dans son paraíso, son paradis.
O sol não fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso, mãinha tá no paraíso. O sol não fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina.
Elle n'oublie pas non plus de nous réveiller pour ne pas rester sur nos acquis, comme sur le titre « Céligué », un morceau qui embrasse la samba de Bahia et le foro que l'on trouve au nord-est du Brésil. Tout ça mêlé dans une musique un peu funk dancehall.
Mais uma vez estou chegando na ativa. Incomodo, aperreio, muda de canal, desliga. Ref, playback, quem segue consegue, evita o baque. Dou nota 10 pro meu sotaque, é que é maluca do papo sinistro do tempo do ronca. Fora de moda, antipática, racista. Sua arrogância que semeia injustiça, injustiça social. Perdeu a boa oportunidade de ficar com a boca fechada.
Cet album nous ouvre au monde de Flavia Coelho. Des voyages, des rencontres, un métissage de culture. Bref, elle nous embarque avec elle dans sa tête, mais aussi dans ses goûts musicaux. On passe donc des rythmes brésiliens à des univers jamaïcains, reggae dub.
Peguei minha mochila, meu chinelo de praia. Esqueci o passaporte, não posso viajar. Cadê o cara que inventou barreira, fronteira, eu quero entrar. Ninguém vai me impedir, eu vou. Senegal, na Jamaica.
Et elle nous ramène dans le ska des années 70. Flavia Coelho a l'art précieux de mêler joyeusement la samba, le baile funk, le reggae, l'afrobeat, boléro, hip-hop et foro. Avec ses textes poétiques et engagés, Sonia Réal groove. Je pense que sur scène, ça va encore danser de partout. Encore une fois, le studio Vague Weyman du guitariste de Flavia crée une alchimie particulière dans cet opus. Les rythmes afro, sa voix souriante et les claviers psychés, les nappes de cuivre, l'accordéon et la basse bien reggae dub, sans oublier les percus, donnent une énergie dans ce disque qui colle parfaitement à la peau de Flavia.
A cigana mandou jogar tudo pro alto. Tarô de Marcela, Saturno quer me parar. A lua cheia, brilha lá no alto. Dá novas ideias, novas ideias. Quando a morte quer dizer transformação. As cartas não mentem, mas elas podem se enganar.
Outra novidade dans ce disque, c'est qu'elle le clôture en chantant pour la première fois en français. T'aimons tout, une déclaration d'amour à un anonyme, qu'on pourrait traduire par la musique. Où son accent irrésistible combiné à cette mélodie faite de claviers chaloupés fait qu'elle nous reste directement dans la tête.
Parce que t'aimes en haut, parce que t'aimes en bas, parce que t'aimes à gauche et ma droite, mon ciel est mon trépas, parce que c'est pour toi que j'imagine tous mes foutus stratagèmes et que t'es la seule raison d'être de ce maudit théorème. Parce que tu es tout ce que je voudrais être, tout ce que je ne suis pas. Parce que tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Parce que t'aimes en haut, parce que t'aimes en bas.
Flavia Coelho nous livre encore une fois son intimité et cette fois-ci ses rêves. Avec ses amis dans une musique métissée et chaude et positive. Parfait pour attaquer l'hiver. Elle sera en concert le 26 novembre à Lyon au Transborder où elle partagera l'affiche avec nos amis Cumbia Boruca. J'irai à sa rencontre afin d'en savoir un peu plus sur Sonia Réal, son troisième album disque de la semaine. Flavia Coelho, Quel Vadial.
Quem tá na mira? Mano, me diga. Quem tá na mira? Desavenças, desencontros. Não dá pra continuar. Eu num canto, espero ver no que vai dar. Mano, me
me diga quem tá na mira. Mano, me diga quem tá na mira. Nessa história somos três, não somos dois. Bato a porta, vou embora e você corre atrás. Depois vejo de vez todo o juízo. Dei meu coração ao indeciso. Quer vadiar, bagunçar comigo. Quer vadiar, quer vadiar. Vai diga quem tá na mira. Mano, me diga quem tá na mira. Seu coração na balança, cabeça onde está? Seu corpo chama pra dançar, chama pra dançar. Mano, me diga quem tá na mira. Mano, me diga quem tá na mira. Nessa história somos três, não somos dois. Bato a porta, vou embora e você corre atrás. Depois perdi de vez todo o juízo. Dei meu coração ao indeciso. Quer vadiar, bagunçar comigo. Quer vadiar, quer vadiar.
C'était Flavia Coelho avec Calvadiar, le retour de la diva brésilienne avec son énergie illimitée avec Sonho Real, son troisième album, cocktail savoureux de musique brésilienne, de reggae, raga et dub.
Cinéma, concert, atelier, vernissage, il se passe beaucoup de choses dans le coin. On vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer, place à l'agenda. N'oubliez pas d'aller récupérer ce jeudi votre panier de légumes et de fruits de 18h45 à 19h30 sur le parking de la gare de Bourgoin-Jallieu. Une initiative organisée par l'AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. À l'occasion de la traditionnelle fête Halloween, différentes animations seront proposées à travers Villefontaine par les maisons de quartier. Vendredi 28 octobre, après-midi, de 15h à 18h, vous avez rendez-vous au quartier des Roches pour Halloween Saint-Vite-aux-Roches. Une après-midi terrifiante avec un bal de sorcières de 15h à 18h. Vous pourrez également visiter le manoir hanté des Roches.
Musique. Samedi 5 novembre, dans la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu, aura lieu une soirée dédiée aux musiques touareg. Nabil Bali ouvre le bal, suivi de Bombino en tête d'affiche. Entre musique touareg et rythme du Niger, il livre une musique authentique, amplifiée et dansante. Le concert débutera à 20h30, 17€ en prévente et 22€ sur place. Cette semaine, on a des invitations à vous faire gagner pour le match de rugby du CSBJ ce vendredi 28 octobre. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de nous contacter et de nous laisser vos coordonnées au 04 74 27 80 80. L'écho local touche à sa fin, on se retrouve jeudi à midi pour un nouvel opus. Retrouvez toutes nos émissions également sur le site internet de Couleur FM ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h du matin ainsi que le dimanche à midi.
Une émission présentée par Mathieu Giraud
et Estelle Gilly.
On termine avec la citation du jour présentée par Véronique Boulieu.
Très bonne semaine à vous.
Merci Estelle, merci Mathieu, et ma citation du jour sera de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. À méditer jusqu'à la semaine prochaine.